cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Alors évidemment, Cobuzz, vous connaissez puisque vous bloguez chez nous depuis le début.
Je blogue, oui, absolument. J'ai découvert cette forme d'expression très tardivement. Mais comme la presse écrite est quelque chose de très merveilleux, mais elle a toujours des longueurs qui sont calculées avec beaucoup d'avarice. Et voilà, comme il y a davantage d'espace sur le blog, de temps en temps, quand je pense qu'il y a à s'étendre davantage, eh bien voilà, je profite du blog.
Alors on évoquera peut-être effectivement les différents lieux d'écriture. Est-ce qu'on écrit de la même manière sur un blog que dans un mensuel, dans un quotidien, dans un livre? Mais l'occasion de vous rencontrer, c'est d'abord parce que vous publiez chez Actes Sud un livre qui s'appelle La 14e valse et qui est un roman, parce qu'il y a écrit roman dessus.
Il y a écrit roman dessus parce qu'on est bien obligé de mettre, de prendre des classifications. Je veux dire, il faut que il faut bien qu'on dise roman à partir du moment où ce n'est pas une histoire littéralement vraie. Si elle n'est pas littéralement et textuellement vraie, elle est forcément un peu romancée. Mais je ne peux pas dire que je revendique le titre de roman alors que je le revendique pour d'autres choses que j'ai écrites. Mais ça, c'est un récit qui est vraiment le plus fidèle possible, le plus exact possible dans les faits même qui sont rapportés, et qui sont des faits historiques et vérifiables d'ailleurs, jusque dans le détail des séances d'enregistrement qui se sont déroulées à Genève.
Mais il faut qu'on évoque aussi, c'est que le centre du sujet, personne du sujet.
Le centre du sujet, ce n'est pas simplement l'enregistrement, c'est le courage d'un pianiste qui se sait condamné et qui est malade, qui sait qu'il n'en a plus pour beaucoup de temps, qui ne veut pas décevoir le public qu'il a et qui lui est fidèle et fidèle avec ferveur, un public qui sait que déjà il a dû beaucoup annuler malgré son jeune âge, parce que ce qui l'atteint est très grave et incurable. Et c'est l'épreuve de patience et de courage de cet homme qui rassemble toutes ses forces en vue de ce dernier récital qui va se donner à Besançon, au bout duquel il ne pourra pas entièrement aller, puisqu'il ne pourra pas s'acquitter de la 14e des 14 valses qu'il avait inscrit à son programme de récital. Mais personne ne s'en est aperçu, évidemment, parce que personne ne compte les valses pendant qu'il les joue. Et il a pu revenir à la fin de son récital, comme d'une façon testamentaire, pour donner en bis ultime, ce Jésus que ma joie demeure, qui était sa signature, pour le monde entier, dans la mesure où par le disque et par la radio, et sous la forme très simple de ces 3 minutes de musique, il était mondialement connu et révéré.
C'est intéressant que dans la générosité de son jeu, vous évoquez justement, et vous l'évoquez d'ailleurs dans les premières pages du livre, quand il dit ce rapport avec le public, il se sent pas comme redevable, mais effectivement les gens viennent le voir, payent parfois cher pour le voir, pas juste uniquement la maladie face à lui-même,
prennent sur leur temps, je veux dire. Alors je dois dire ici une part qui est romancée, si vous voulez, qui est fictive, mais qui aurait pu être vraie. Je me suis trouvé moi-même entré à l'école normale en 1950. Le concours se passait en juin et en juillet. Je n'aurais évidemment d'aucune manière pu aller au récital Lipati qui était annoncé au mois de juin pendant le festival de Strasbourg, à l'occasion de ce festival Jean-Sébastien Bach. Mais tous mes camarades qui étaient déjà à l'école et qui aimaient la musique, qui avaient tâché d'y aller en rassemblant leurs économies à l'époque où voyager n'était pas tellement facile, ça ne se faisait pas pour un oui et pour un non. Les étudiants n'avaient pas un sou vaillant. Et j'ajoute enfin que l'amour de la musique n'était pas si profondément implanté, si vous voulez, au cœur des étudiants et des jeunes gens. Mais c'est vraiment pour Bach qu'on faisait ce pèlerinage. Et bien entendu, si j'en avais eu les moyens, si j'avais déjà été à l'école, j'aurais fait ce pèlerinage. Et j'aurais tâché de m'arranger pour que les 2-3 jours que j'aurais pu passer à Strasbourg coïncident effectivement avec le récital Lipati qui a été annoncé. Alors, dans les faits, Lipati, je pense, n'est jamais allé jusqu'à Strasbourg, a annulé bien avant. Mais enfin, il n'était pas inconcevable qu'il y soit allé. Il n'était pas inconcevable qu'y étant allé, il reçoive cette lettre de jeunes gens, enfin, qui ne lui font pas du tout le reproche de s'être dérobé, bien au contraire, puisqu'ils ont eu quand même quelques jours pendant lesquels ils ont pu entendre Bach, mais qui espèrent simplement le revoir une fois prochaine, par exemple à Besançon, où il était annoncé. C'était la seule chance possible pour la France après Strasbourg.
Quelle image et que représentait ce nom de Lipati à l'époque? Parce que c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est bon, il est mort en 1950, il n'y a pas un nombre de traces discographiques débordantes. C'est pas, comment on pourrait essayer justement aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'il représentait, comment on le situait un peu sur l'échiquier, j'allais dire, des pianistes?
Vous savez, il n'y avait pas, pour être franc, il n'y avait pas d'échiquier. Hein. Il n'y avait pas d'échiquier, c'est-à-dire que... L'image des pianistes n'était pas du tout répandue, il y avait beaucoup moins de disques qu'il y en a aujourd'hui, il y avait en plus de cela un bien moindre accès à la musique par le disque puisque le micro-sillon ne s'était pas encore répandu. Par conséquent, on était tributaire du 78 tours et de l'accès au 78 tours par des machines elles-mêmes lourdes. Je veux dire que la musique comme bruit de fond, comme quelques années plus tard, j'ai pu l'entendre moi-même à l'école normale au moment où le micro-sillon aidant de toutes les turnes sortait les quatre saisons ou bien les Brandebourgeois. Ça n'existait pas encore en 50, c'était vraiment le point tournant. Et Lipati pouvait avoir une image simplement parce que c'est à lui qu'on attribuait cette transcription pour piano par Myra Hess de Jésus que ma joie demeure, qui était devenue mystérieusement une sorte de tube. Car la radio, je ne dis pas le matraquer, c'était évidemment inconcevable. Mais enfin, il est rarissime que sous une forme aussi brève, 3 minutes, faisant aussi peu de bruit, une œuvre pleine et complète, facile à identifier, porte avec elle-même sa lumière, son émotion, sa qualité de présence. Qualité de présence qui était aussitôt assimilée à la fois à Bach et à celui qui nous jouait cela, c'est-à-dire Lipati. Et c'est en quoi, si peu qu'il y a eu d'écoute de la musique classique à ce moment-là, il y avait une attention portée à Lipati. Et bien entendu, le peu d'informations qu'on pouvait avoir par la revue Disque, par exemple, enfin, ce qui n'était pas grand-chose, nous disait qu'il y avait une dizaine d'autres disques de lui. La quasi-totalité de son héritage, ce qu'il a donné en juillet 1950, c'est-à-dire entre le moment de son annulation à Strasbourg et le concert à Besançon qui était en septembre, eh bien, cet héritage du mois de juillet n'avait pas encore été constitué. Cet héritage qui est dû à l'action miraculeuse de la cortisone qui lui avait procuré ce répit d'une dizaine de jours qui était promis, qui était assuré par le médecin, et pendant lequel il a été possible à Columbia de faire venir son camion d'enregistrement devant la maison même de Lipati à Genève, en sorte que vraiment, pendant ces quelques journées d'euphorie, il mette au point son programme de Besançon, parce que c'est pratiquement la même chose qu'il a joué ensuite à Besançon. Et nous avons donc ce double héritage, à la fois sous sa forme de studio fait à Genève, et ensuite sous la forme live, on peut le dire, par ce qui a été sauvé du récital de Besançon, que pendant longtemps on a cru avoir perdu. Thank you.
vous souvenez la toute première fois que vous avez entendu du Lipati ?
La toute première fois, je ne peux pas dire, mais enfin, vous savez, il y a un effet d'imprégnation qui joue. Mais je peux vous dire que très certainement, c'était Jésus que ma joie demeure. Et Jésus que ma joie demeure, que j'ai dû avoir l'occasion d'entendre, voilà, 5, 6, 7 fois. Mais je le répète, chose identifiable immédiatement à l'oreille, qui est comme la signature et le sourire de quelqu'un et la lumière qui émane de quelqu'un. Et en plus, l'espèce de chemin le plus simple possible qui peut conduire à l'immensité de Bach. Donc ça, je suis tout à fait formel, c'était même les deux, peut-être les deux années précédentes, puisqu'il en avait déjà donné le 78 tours, et dès 47 ou 48, je pense, et moi, dès que j'ai eu un appareil, ou que j'ai pu aller entendre ça chez des amis, en tout cas, j'avais le disque sous le bras pour aller l'entendre et le faire entendre.
Est-ce que vous croyez que si on se place du côté donc, de l'auditeur, du mélomane, connaître ce combat perdu d'avance par l'interprète face à la maladie, à la mort, donne une lecture, une écoute de la musique un peu biaisée, peut-être un petit peu trop fort comme mot, mais donne effectivement une tension, quelque chose à la musique de particulier.
Oui et non. Parce que, bien entendu, il y a eu une légende, Lipati, bon, évidemment, qui s'est atténuée maintenant, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le monde depuis 58 ans que, bon. Il faut dire que le timbre du piano, la voix du piano, ne porte pas par elle-même, et en plus l'absence de paroles, c'est de la musique pure. Et de Lipati, dans son piano, on ne perçoit que le sourire et la lumière, c'est-à-dire que rien d'émotionnellement dérangeant et lié à la mort ne peut intervenir là-dedans. Donc c'est beaucoup plus un message de vie et un message d'espérance et de lumière qu'une expérience compassionnelle qu'on éprouverait pour quelqu'un qui, après tout, bon, il a souffert, il est mort à 33 ans, mais il s'est passé, il y a tellement de choses beaucoup plus horribles que cela que ça, il n'y a pas de quoi impressionner. Il y a eu à l'époque, si vous voulez, le fait qu'en 53, quelqu'un qui est très apparentable à Lipati, qui était Kathleen Ferrier, est morte, elle, de son cancer, et est morte en pleine jeunesse, et au commencement de sa gloire, elle avait 41 ou 42 ans. Et bien entendu, avec une voix, le rapport émotionnel est très différent, d'autant que dans la voix de Kathleen Ferrier, il y avait immédiatement présent cet élément de compassion qui touchait extraordinairement le public, et qu'elle est ou qu'elle n'est pas à mourir, on sentait cette compassion. Et cette compassion, bien entendu, s'est reportée sur elle quand on a su qu'elle était en train de mourir et qu'elle nous laissait simplement sa voix consolatrice et sa personnalité. Mais il n'en va absolument pas de même avec Lipati, qui, même dans cet effort surhumain qui a été son dernier récital à Besançon, où vraiment il a fallu pratiquement le traîner jusqu'à son piano, et où personne ne pensait qu'il irait la force d'aller jusqu'au bout, et c'est la raison pour laquelle la RTF n'a pas voulu prendre le risque de transmettre la chose en direct. Mais personne, pendant que Lipati jouait, pendant ce tout dernier concert, n'a pu avoir le sentiment qu'il passait dans sa musique, quoi que ce soit de son drame personnel et de son combat personnel. Si on avait pu sentir dans sa musique des stigmates de sa propre souffrance ou de son propre combat ou des preuves de son courage, il ne l'aurait pas fait. Il entendait jouer Bach comme Bach doit être joué, et s'il avait pu s'y mélanger quoi que ce soit de sa situation personnelle, il aurait certainement renoncé. Et ce qui est prodigieux, c'est qu'en vérité, vous pouvez bien entendu distinguer en faisant très attention ce qu'il a enregistré à Genève dans la tranquillité du studio et en s'y reprenant à plusieurs fois, parce que c'était un perfectionniste, de ce qu'on entend de Besançon dans ce contexte qui, a posteriori, est extraordinairement émotionnel. Mais la différence est impalpable et il faut de très solides oreilles pour les repérer.
Quand on se lance dans une entreprise de la sorte, donc de cet ouvrage, donc il y a évidemment vos connaissances personnelles, mais ensuite comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches ? C'est quelque chose qui, c'est un ouvrage qui vous a demandé un travail particulier avant, évidemment, j'allais dire de l'écrire en termes factuels, en termes de remise en état des éléments purement biographiques, de dates, de faits, de témoignages, etc.
Je dois dire que non. Vous voyez, à peine j'ai eu décidé qu'il fallait l'écrire. Ça n'a pas été très long et très difficile parce que, en vérité, j'ai été conduit un peu à l'écrire parce que je venais de faire un parcours mental très important sur les derniers temps de son existence, les dernières traces de son travail. Donc, si vous voulez, les éléments qui normalement auraient été très difficiles à rassembler, en un sens, je les avais déjà. Outre le fait, que depuis très très longtemps, je m'intéresse extraordinairement à tout ce qui touche Livati, et j'ai été amené à écrire très souvent et parfois de façon importante sur lui. J'ai connu bien beaucoup de gens qui l'avaient approché de très près et qui m'ont très bien parlé de lui. Donc, en un sens, j'étais aussi près qu'on pouvait l'être. Bien entendu, et je ne voulais pas. En plus, le livre, si vous voulez, porte sur les trois derniers mois d'une vie dans laquelle, en vérité, il ne se passait plus rien. Il y a eu simplement cette excursion manquée ou réussie à Strasbourg, et le reste du temps, il y a 2 mois ou 3 mois à Genève, avec des gens qui, effectivement, viennent le voir, et on sait qui c'était. Donc, il a bien entendu, il m'a fallu une prudence de serpent à chaque instant, pour ne pas inverser l'ordre des choses, et pour ne pas amener chez lui des gens qui n'y étaient pas. Mais, dans la mesure où, si vous voulez, le plus important du texte, c'est simplement les pensées que je peux prêter à quelqu'un qui veut survivre d'une certaine manière et survivre pour aller au bout de quelque chose qu'il doit avoir à accomplir. Là, je prends mes risques, bien entendu, et après tout, qui suis-je pour parler à la place de Livati absent? Mais cela, c'est... Je ne dirais pas que c'est le droit de quelqu'un qui se lance dans une fiction, mais en un sens, c'est presque son devoir. Il faut qu'on tâche de voir de l'intérieur le cheminement de ce courage et de cette résolution et les appuis sur lesquels il pouvait compter.
Est-ce qu'il y a eu comme une évidence pour vous, assez rapide, de n'écrire que sur cette partie précise de sa vie ?
Absolument. Dans mon intention absolument primitive, je voulais faire encore moins puisque je voulais simplement essayer de rendre compte de la préparation fantastique pour tenir l'endurance de ces 14 valses et faire simplement cela. Mais là, je me suis aperçu que ça se heurtait à des problèmes absolument insolubles. Je veux dire, c'est l'envers d'une espèce de préparation morale et mécanique, et absolument personne ne peut entrer dans le détail de cela sur quelques jours. On peut simplement en rêver. Et c'est alors que je me suis dit, mais mon Dieu, il avait déjà donné comme une répétition de cela dans son parcours discographique à Genève au mois de juillet de la même année. Et par conséquent, il y a une histoire qui est valide et en plus qui est vraie. Et comme je me trouve alors vraiment avoir très bien connu Walter Legg, qui était le magicien de ces disques-là et qui est un peu le thaumaturge sans lequel le miracle des disques n'aurait jamais pu se produire, l'arrivée du camion à Genève, tout ça est une histoire absolument vraie, je dirais vérifiable. Et que Legg m'avait donné beaucoup de détails là-dessus, surtout m'avait raconté plusieurs fois l'esprit dans lequel les choses s'étaient passées et la vérité de ce qu'il y avait chez Livati, c'est-à-dire cette recherche de la perfection qui finalement s'accommodait mieux du disque où lui-même ne risquait pas d'être présent et d'intervenir émotionnellement, que de ce concert direct où lui-même pouvait être gêné par quelque chose qui émanerait des auditeurs et de la compassion ou de la sympathie des auditeurs venant à le déranger en quelque sorte dans la neutralité et l'objectivité de celui qui est dans sa performance elle-même, pendant laquelle il ne doit penser à rien d'autre.
Comment choisit-on comment vous choisissez plutôt le sujet d'un livre, quelque chose qui pour vous sera plus qu'un article, un livre? Est-ce que ça vient naturellement comme ça? Est-ce que c'est une longue réflexion, des choses que vous gardez en vous, sachant que vraiment il n'y a pas de règles?
Il n'y a pas de règles. Je dirais que ce qui est le plus commode, vous savez, la plupart des livres que j'ai écrits sont en vérité des livres de commandes et sont plutôt des essais sur un sujet donné. Par conséquent, le sujet nous est tracé d'avance et à vous de le remplir.
C'est un prétexte.
Voilà, de la façon dont vous pourrez le remplir. Mais bien entendu, quand il s'agit d'une fiction, c'est différent. Et j'en ai écrit 3 ou 4, enfin, qui peuvent se... Et on compte... plus, si vous voulez, les sujets qu'on écarte, parce qu'on s'est pris d'une espèce de sympathie pour eux, et puis on tourne un peu autour, et on s'aperçoit que, voilà, qu'on n'y arrive pas et qu'on n'y arrivera pas. Et depuis longtemps, enfin, je l'avais déjà ressenti avec Claudio Arrau, pour des raisons tout à fait différentes, mais depuis longtemps, je me représentais le pianiste, enfin, comme un personnage combattant, et un personnage combattant dont on peut raconter le combat, sans l'enjoliver, quand on connaît suffisamment bien les circonstances de sa formation, les circonstances de sa biographie, en dehors évidemment des choses intimes que l'on n'a pas à connaître, mais dans le cas de Hypatie, il n'y avait pas de choses intimes, je dois dire, puisqu'il était marié à Madeleine Hypatie depuis longtemps, il vivait avec elle depuis longtemps, enfin je veux dire, il y avait une transparence absolue sur la biographie même, enfin cette biographie sans zone d'ombre. Donc il n'y avait pas d'obstacle sérieux du côté de la vie privée. Mais si je ne m'étais pas trouvé en train de travailler par ailleurs, enfin quelque chose précisément sur Genève et ses enregistrements de juillet 50, si je n'avais pas senti une sorte de constellation qui était en train de se fabriquer autour d'un personnage qui depuis longtemps me passionnait, pour lequel j'avais une tendresse et je dirais une fidélité, enfin depuis toujours, je ne crois pas que j'aurais jamais eu l'idée a priori de me lancer dans quelque chose d'aussi saugrenu. Mais ça s'est imposé à moi réellement en un instant. Je me suis dit, mais il faut faire la 14e valse. Et tout de suite, ça a été la 14e valse. C'est-à-dire, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que je pourrais faire la 14e? Et j'ai passé un été ensuite, c'était il y a 2 ans, j'ai passé l'été à laisser le projet de côté et à sentir venir quelques détails qui corroboraient, si vous voulez, cette chose-là. Je regroupais un certain nombre de choses qui faisaient convergence avec le projet. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça vit en toi, il y a des choses qui s'y rapportent tout naturellement, c'est donc quelque part que ça vit et que tu dois y aller.
En termes d'écriture, j'imagine que ce n'est pas la même chose que quand vous publiez un article. Vous avez ce qu'on appelle des deadlines, de rendu de papier. Là, vous pouvez finalement laisser, j'allais dire, la chose mariner en vous, la laisser de côté, la reprendre.
Oui, j'aurais pu, mais alors vous voyez...
Quel rapport vous avez vraiment avec l'écriture par rapport à ça?
Non, mais ça, c'est un peu particulier dans la mesure où ce n'est pas un article qui est commandé, si vous voulez. Ce n'est pas non plus un essai, mais c'est quelque chose qui a son histoire propre. Une histoire propre que je dois connaître moi-même assez bien de façon à pouvoir la raconter correctement, mais enfin quelque part qui n'est pas mon histoire. Il est clair qu'à pas un instant, je n'étais maître de la route. Il fallait au contraire que jour par jour ne puisse se produire que ce qui était vraisemblable. Parce que ce qui était vraisemblable devait recouper ce qui était vrai et vérifiable. Donc, je n'ai jamais pu laisser aller rien selon ma fantaisie propre, si vous voulez. Et pas du tout.
C'est comme un interprète face à sa partition, finalement.
Là, oui, en un certain sens, oui. Et je dois dire, c'est pour ça que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas été aussi plein du sujet et de ce qu'il y a de factuel dans le sujet qu'il est possible de l'être, à moins de vouloir faire une thèse, n'est-ce pas, et une biographie savante, ce qui n'était pas du tout mon propos. Mais j'ai donc pu écrire en vérité très, très rapidement, simplement parce qu'il fallait continuer jour par jour, jusqu'à un terme que je voyais s'approcher, que je connaissais parfaitement bien, qui était ce jour de septembre où effectivement le récital a eu lieu, et puis 3 mois, même pas 3 mois ans plus tard, ce jour de décembre où nos autres jeunes gens nous apprenions voilà, qu'il était mort. Et en même temps, nous apprenions par la radio elle-même qui retransmettait ce concert qu'il ne mourrait jamais, puisque ceci nous arrivait de l'autre côté de sa mort, cette musique qu'il avait voulu jouer jusqu'au dernier moment. Mais ça a été à cet égard facile, et j'ai écrit la chose, je n'ai pas à vous le cacher, je l'ai écrit en 5 ou 6 semaines, enfin, en y travaillant un peu tous les jours. Je suis un vieux monsieur, et j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que je ne pouvais évidemment pas me lancer dans des performances endurantes d'écriture, et je me suis astreint précisément à l'écrire à la plume, de façon à ne pas pouvoir en faire trop à la fois, et de façon à m'arrêter, par fatigue, disons, au moment où je pouvais avoir rempli un épisode, vous voyez ? Et ainsi, j'y suis allé petit à petit, jour par jour, parfois jusqu'à 3 fois dans la même journée, comme j'aurais reconstitué une sorte de toile dont je connaissais les éléments. Mais à cet égard, ça a été très facile.
Donc un élément physique, finalement, comme un interprète,
oui,
comme un pianiste.
Oui, absolument. Mais je me suis obligé à l'écrire à la plume, et je me suis obligé à ne pas raturer, en me disant, si tu te mets à raturer, si tu te mets à reprendre, c'est la fin du monde. Quand il s'agira de le saisir, à ce moment-là, tu pourras changer ce que tu as envie de changer, arranger, éliminer les erreurs, voilà. Mais je me suis astreint à écrire tout cela à la plume, et sans une rature, je peux vous le montrer, si vous le voulez, j'ai un témoignage irrécusable.
Est-ce que vous écrivez sur la musique, les musiciens, les compositeurs, depuis pas mal d'années, est-ce que vous, lorsque vous écrivez, que ce soit un article, un blog ou un roman, on va appeler un roman, comme celui-ci, vous voyez un rapport avec les sujets sur lesquels vous écrivez ? Est-ce que vous vous sentez vous-même interprète, compositeur d'une certaine manière
ou... Oui, non, je ne me sens pas du tout interprète ni compositeur, mais je me sens, comment dirais-je, récepteur. Je suis quelqu'un qui a eu la chance de recevoir des messages qui étaient envoyés, j'ai eu la chance d'entendre, je crois que j'ai bien entendu et que j'ai bien écouté, n'est-ce pas ? Et à un moment donné, quelque chose parle en moi, qui nous est venu de Jean-Sébastien Bach, qui nous est venu de Mozart, qui nous est venu des grands créateurs, bien entendu, mais qui est également passé par des interprètes. Je veux dire que les interprètes qui nous ont donné la chose que nous n'aurions pas connue sans eux, parce que tant que la musique est sur le papier, elle n'est pas encore de la musique, elle ne commence à être de la musique que quand elle commence à s'incarner dans le son. Eh bien, des gens comme Serkin, comme Lipati, très vite, comme Arrau, que j'ai connu plus tard, sont des gens par qui j'ai reçu quelque chose, et comme je l'ai reçu d'une manière probablement un peu privilégiée et un peu personnelle, je dois dire que je m'en sens également comptable à mon tour, c'est-à-dire que il faut aussi parler de ces gens qui ont fait cela pour nous.
Est-ce qu'un passeur est un critique aussi ? Ou sont deux choses différentes ? Comment intervient la notion de critique ?
Mais je ne suis pas un critique.
Je vais vous demander pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un critique ?
Mais je ne suis pas un critique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un critique. Un critique, autrefois, quand il y avait des critiques, c'était quelqu'un qui rendait compte de création. À l'époque où il y avait beaucoup de création. Et il était suffisamment versé en musique pour juger une création. Je veux dire, c'est un opéra de Verdi qui arrivait là, ou bien c'était une mélodie de Ravel, mais enfin, c'était l'époque où on composait beaucoup et où il y avait un public, enfin, qui voulait savoir ce que valait la nouvelle chose qui arrive. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de création. Donc, il n'y a plus lieu, je veux dire, les critiques sont des critiques d'interprétation. Ils ne critiquent pas des œuvres, ils critiquent des interprétations. Ce pourquoi aucune science n'est nécessaire. De l'oreille, de la mémoire, la capacité de faire quelques comparaisons, et si possible un peu de goût et un peu d'honnêteté. Mais tout ça, ça peut se trouver chez un amateur pur et simple. Je n'ai jamais été critique professionnel, je n'ai jamais eu de carte de journaliste, j'ai toujours exercé un autre métier par ailleurs, donc je ne me considère pas moi-même du tout comme un critique. On peut me demander mon avis sur un opéra que j'ai vu ou sur un récital que j'ai entendu, mais je ne pense pas que ce que j'ai à écrire dessus ait une valeur de critique. On peut en avoir sur les disques, parce que sur les disques, bien entendu, il n'y a qu'une question d'interprétation, et si vous avez à rendre compte, j'imagine, d'une suite française par Glenn Gould, vous devez vous demander aussi ce que, parce que l'acheteur a besoin de le savoir, ce que telle suite devient sous les mains de quelqu'un d'autre.
Comment vous vous définissez quand quelqu'un qui ne vous connaît pas vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que vous avez fait ?
Seigneur, personne ne m'a jamais posé la question d'une façon aussi innocente. Vous savez, je suis quelqu'un qui a enseigné depuis 1957. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Depuis 1954 jusqu'à 1992, j'ai enseigné la philosophie et principalement dans la même classe et dans le même lycée à Strasbourg. Je me considère donc parfaitement comme un professeur de philosophie. Je ne vais pas dire, à partir de là, que je suis philosophe comme le prétendent les gens qui ont passé simplement 2 ou 3 certificats de licence. Je ne me considère pas comme philosophe, j'ai été professeur de philosophie toute ma vie. Ça doit donner, enfin, d'abord une écoute de l'autre, j'imagine, enfin, qui est requise en premier lieu, un sens d'ouverture aux élèves, et voilà, un peu de sérieux dans la façon qu'on a d'avancer un mot plutôt qu'un autre. Ça, je le revendique, probablement beaucoup de critiques devraient y penser eux aussi, avant d'écrire un seul mot, mais... Et alors, par ailleurs, voilà, comme je vivais en province et que mon lycée était en province, j'y avais tout le temps libre qu'on peut avoir par ailleurs, et ce temps libre, c'était la lecture et la musique. Mais progressivement, peu à peu, il s'est trouvé que je me mette à écrire là-dessus.
Est-ce que, comme le sujet de ce livre est venu un peu comme une évidence, vous nous avez dit assez rapidement, est-ce qu'au contraire, il y a des sujets sur lesquels... vous sentez une certaine capacité, possibilité d'écrire, mais vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas franchir le pas des compositeurs ou des...
Non.
Parce que je veux dire, quelque chose de très personnel.
J'ai écrit un Mozart et un Richard Strauss, ce qui est relativement facile, mais je suis en train de m'attaquer à un Beethoven, ce qui est tout de même plus difficile, parce que c'est un personnage ombrageux et pas réellement traitable humainement, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire, et au contraire, là, je pense, si vous voulez, pendant des années, j'ai eu à parler de Platon ou de Descartes, je dirais Beethoven n'est pas quelqu'un de beaucoup plus intraitable que Platon ou que Descartes, si on a eu pour métier d'essayer d'établir des passerelles entre des choses qui sont difficiles peut-être à saisir immédiatement, mais qui sont importantes, essentielles et nourricières, et des gens qui ont besoin de les appréhender mais qui n'en ont pas toujours les moyens et les chemins et les ficelles, ben c'est mon métier de le faire. C'est mon métier de communiquer quelque chose à des gens qui ne savent pas et de le communiquer dans des termes qu'ils puissent comprendre. C'est en quoi, pas davantage que je ne suis critique, je ne suis musicologue, bien entendu, puisque le musicologue, au contraire, en un sens, garde pour lui, n'est-ce pas, et montre la différence qu'il y a entre les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Le métier d'un professeur est d'effacer la différence qu'il y a entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, de les mettre à égalité, n'est-ce pas ? Eh bien, si je suis arrivé à un moment donné assez près de Beethoven, ou de Wagner, ou de Mozart, sur lequel j'ai écrit des livres, pour penser que j'en ai retiré suffisamment que je puisse communiquer, eh bien, je le fais. Personne ne s'étonnerait qu'avec, si vous voulez, les titres universitaires et la carrière que j'ai, j'écrive quelque chose sur Nietzsche. Ça n'étonnerait personne. Mais je trouve que 30 ans de lecture de Nietzsche et 30 ans d'écoute de Beethoven, si on le fait sérieusement, ça s'équivaut, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de l'un comme de l'autre.
Lorsque vous écrivez un ouvrage comme celui sur l'hypatie, est-ce que vous avez plutôt tendance à vous couper complètement, physiquement, j'allais dire, de ces enregistrements que vous connaissez d'une certaine manière, qui sont en vous en permanence, ou au contraire, vous avez plutôt besoin de... ils sont à vos côtés en permanence durant l'écriture? Les questions que je pourrais vous poser également pour vos ouvrages précédents.
Je dirais, si vous voulez, que pour l'hypatie, le travail avait été fait en amont. Je veux dire, il n'y a pas, l'héritage est tellement petit, hélas, n'est-ce pas? Quand on connaît par cœur la partita de l'hypatie, un impromptu de Schubert de lui, et un bout de Chopin, mon Dieu, hélas, on a fait le tour, et ce n'est pas difficile d'avoir, si vous voulez, le timbre de voix, le sens de la phrase, d'avoir cela en soi, de le porter en soi. Il est évident que, en réciproque, quand je suis en train de travailler sur Beethoven, comme je le fais en ce moment, et si je suis sur l'équateur, j'ai bien entendu besoin de m'y référer, de vérifier. Il faut que je me rassure un peu moi-même, qui ne suis qu'un amateur, enfin, en étant sûr que j'entends bien ce que j'entends. Alors, le travail est très différent, vous le voyez. Et chaque fois que j'ai à parler d'un chanteur, ce qui m'arrive bien entendu beaucoup plus souvent encore, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où les caractéristiques du timbre et puis le fait qu'il y a en général des paroles dans le chant, tout cela nous rend l'approche beaucoup plus facile.
Donc cet ouvrage sur Beethoven devrait
Ah ben, il devrait être terminé dans un mois, normalement, si je dois obéir à l'éditeur, et il devrait être pour l'hiver prochain, je pense.
D'autres projets, sinon, pour plus tard, ou des envies de projets, des embryons de projets?
Mais vous savez, je suis tentable à chaque instant. Lorsque j'étais professeur, ce qui a quand même duré longtemps, pendant, vous voyez, plus de 30 ans, je n'étais pas sûr de ce que j'allais raconter en classe. Je dirais même que le plus souvent, je n'en avais pas la moindre idée. Mais j'avais une liste des questions qui tombait à l'oral de l'école normale et que, bien entendu, il fallait leur apprendre à traiter. Donc, si vous voulez, pendant ma carrière, j'ai fonctionné au tirage au sort. Mettons 3 sujets dans un chapeau, tirons et je vous parlerai de ce qui tombera. Et tout ça est évidemment passionnant. Et à partir du moment où vous avez fait un cours d'une heure, mais un petit peu serré, sur un sujet auquel vous ne pensiez pas la veille, il y a matière à essayer. C'est un sujet. Tous les sujets sont intéressants. Aux gens qui disent, mais enfin, comment vous pouvez vous intéresser encore à ce métier ou à ce que vous racontez depuis le temps que vous le faites? Mais tous les sujets sont en permanence intéressants et on n'a pas fini de les traiter. Vous me diriez, demain, vous allez faire un livre sur Nietzsche ou un livre sur Simone Veil, je dirais, mais je suis absolument... Non seulement je suis prêt à le faire, mais je me dis même que je suis en retard et que ça fait 20 ans que je me dis que je dois le faire.
Est-ce que vous faites encore des découvertes? Est-ce qu'il y a des œuvres, des compositeurs, finalement, qui aujourd'hui ont pour vous un sens, une saveur, une valeur qu'ils n'avaient pas il y a 10 ans ou 30 ans?
Non, je ne crois pas. Je pense que j'avais écouté suffisamment de choses et avec assez de sérieux pour ne pas faire de découvertes de ce côté-là. Et pour ce qui est à côté, n'est-ce pas, et pour ce qui est nouveau, je dois dire que... Et j'arrive à un âge, et ça fait un bout de temps que j'arrive à un âge, je pense qu'il faut quand même qu'on précise que j'ai 77 ans tout de même. J'arrive à un âge où la mémoire ne se donne plus volontiers. C'est un fait simplement physique, ça ne dépend pas de la bonne volonté. C'est un fait physique, et dans mon cas, ce que je ne peux pas retenir par cœur, vous voyez, ce que je ne peux pas faire vivre en moi, et entendre pour ainsi dire du dedans, ne me fait pas d'usage. Donc, j'ai un peu fait le plein, non pas seulement de ce que j'ai à entendre, mais aussi de ce que j'ai à lire. J'ai beaucoup lu, vous savez, beaucoup, et beaucoup entendu, et dans la mesure où ça revient en moi, et où ça revient en moi de manière fraîche, eh bien, je le repasse aussi. Tout à l'heure, vous voyez, vous êtes entré tout à l'heure, j'étais avec le 14e quatuor de Beethoven, c'est peut-être la 200e fois de mon existence que je l'entends, je n'en ai pas fait le tour, et je continue à trouver que c'est assez extraordinaire. Donc, je ne suis pas blasé du tout,
mais je ne suis pas curieux du tout.
Est-ce qu'il y a une frustration, alors même sans être blasé, puisque pour la 200e fois, on découvre, on ressent, on interprète des choses différemment, est-ce qu'il n'y a pas une frustration parfois, justement, de ne pas prendre, comme on pourrait dire, une claque, quelque chose en termes de... comme on peut le prendre au début quand on découvre pour la première fois?
C'est comme si vous me demandiez si on peut regretter, quand on est vieux, d'avoir été jeune. Bien entendu, je regrette le temps de ma jeunesse, mais bien entendu également, je ne le regrette pas. Je veux dire qu'il y a le temps des surprises, il y a le temps des enthousiasmes, il y a le temps des... Voilà, des surprises, des enthousiasmes, des découvertes. Et je me trouve extraordinairement heureux à mon âge que l'âge des enthousiasmes et des émerveillements ne soit pas fini et que l'émotion que m'apporte la musique soit aussi fraîche et aussi vive. Mais attendez, s'il s'agit toujours du 14e quatuor et pas d'un quatuor qu'on ait écrit aujourd'hui ou un qui m'est échappé d'un compositeur que je ne connaisse pas, ça, c'est pas ma faute. Si personne ne recommence le miracle de Beethoven et de Mozart, c'est pas ma faute à moi.
Donc bah, nous nous plongerons dans ce Beethoven qui sortira l'année prochaine ou peut-être avant.
Eh bien oui, mais ce qui est regrettable, vous voyez, c'est que de l'Hypatie, nous n'avons pas une note de Beethoven. Il n'en a pas joué une note en concert dans toutes ces dernières années. Il n'avait joué que la Waldstein, il avait un projet, bien entendu, pour l'enregistrer plus tard, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et il avait dit à Legge, oh ben, de toute façon, moi, pas pour enregistrer l'empereur, mais pour le jouer, il me faut une préparation de 4 ans. Ça, c'est un message à méditer, bien entendu.
Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, La 14e valse, qui sort donc chez Actes Sud. André Tuboeuf, merci.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.